chose commune, changement climatique et agriculture, première partie. Cette semaine, la chose commune s'attaque à un gros, un très gros dossier. Le changement climatique est l'enjeu majeur de l'humanité sur le siècle qui vient. Il s'agit désormais d'un sujet de préoccupation également pour le grand public. Au niveau international, le GIEC et l'ensemble de sa communauté scientifique étudient les causes et conséquences de ce phénomène lié à l'activité humaine. Plus près de chez nous, au niveau régional, les acteurs publics, Conseil régional, Direction régionale de l'environnement et de l'agriculture, l'ADEME, les agences de l'eau, se mobilisent et ont créé l'Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique, ou ORACLE. Depuis plusieurs années, le rôle de ce dispositif est de réaliser des études sur l'observation du changement climatique et son impact sur la production agricole. Et pour en parler, nous recevons Christophe Beaujouan, animateur du réseau régional, avec qui nous avons échangé pour réaliser une émission en deux parties. La seconde partie, à retrouver mardi prochain, portera sur les adaptations et les capacités d'atténuation du changement climatique par le monde agricole. Et tout de suite, on commence par poser un constat du changement climatique et de l'impact sur les différentes productions agricoles. Bonjour Monsieur Christophe Beaujouan.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez donc vous présenter? Vous êtes animateur régional au sein de l'Observatoire ORACLE. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter ce dispositif régional?
Oui, bonjour. Alors voilà, donc je suis Christophe Beaujouan, je travaille à la Chambre régionale d'agriculture. Je m'occupe depuis 3-4 ans sur ces questions de changement climatique. Et donc ça s'appuie effectivement sur la mise en place d'un oracle qu'on appelle alors oracle pour Observatoire Régional Agricole du Changement Climatique. Donc ça a été mis en place il y a 3 ans pour l'objectif principal, c'était pour objectiver le changement climatique en région centre. Et cet oracle repose sur un partenariat fort avec Météo France, qui nous a donné accès à ces stations météo avec un historique depuis 60 ans. Ainsi, on peut avoir des données climatiques et agroclimatiques avec un historique de plus de 60 ans, ce qui permet d'avoir une évolution de certains paramètres assez parlant pour un agriculteur et avoir son évolution localement sur certains paramètres comme l'évolution des températures et l'évolution des pluviométries, par exemple.
D'accord. Hors Météo France, qui sont les différents acteurs de cet observatoire?
Alors, Météo France fait partie d'un partenaire technique, mais nous avons également la DRAF, la DREAL, pour citer les principaux. Et les partenaires financiers sont les agences de l'eau, l'ADEME et le conseil régional qui nous aident financièrement pour mener à bien cette action.
D'accord. Donc votre travail se base sur des observations scientifiques et météorologiques. Vous avez cité Météo France qui vous les fournit. Est-ce que vous avez d'autres structures qui vous apportent des données?
Tout à fait. Oracle, dans ses premiers chapitres, vise à objectiver et à aller chercher des indicateurs climatiques. Mais nous abordons d'autres thèmes dans Oracle, notamment le thème des impacts. Donc nous allons aller voir dans toutes les filières un petit peu, exemple, évolution du rendement en blé, évolution des dates de vendange, qui sont scientifiquement liées au réchauffement climatique. Et également, donc nous allons voir, donc là pour le coup c'est plus Météo France, ce sont les experts dans les filières qui vont nous apporter des données avec le maximum d'historique possible pour construire des courbes et se représenter un peu l'évolution de l'impact dans certaines filières. Et enfin, dernier paragraphe dans Oracle, on a également les indicateurs d'adaptation et les indicateurs d'atténuation pour faire le lien forcément entre ces deux notions importante et parler un peu de gaz à effet de serre et de stockage carbone et voir et objectiver toujours les efforts des agriculteurs dans ces deux domaines.
D'accord. On reviendra en effet sur tous ces éléments-là, hein, que ce soit la question du changement climatique, de ses impacts et de la façon dont le monde agricole doit ou va devoir s'adapter et pourra éventuellement participer à l'atténuation de ce réchauffement. On verra ça un petit peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, moi, je voulais déjà qu'on pose un petit peu le constat, en tout cas l'état des lieux du changement climatique. Alors, notre région, elle est impactée au même titre que le reste du monde, hein. On n'est pas isolé du reste du monde. Pouvez-vous nous donner un tableau significatif du changement climatique en région avec quelques données, quelques informations?
Oui, alors avant juste de commencer, je voudrais juste faire une petite précision sur ce que l'on appelle météo et climat, puisqu'il y a une confusion qui se fait souvent. La météo, c'est ce qu'on voit à la télé tous les soirs, et on parle de prédiction climatique, c'est-à-dire qu'on va dire le temps qu'il va faire à aller 10-15 jours maximum. Ici, on parle de climat. Et Météo France nous explique qu'on parle de climat à partir du moment où on a une moyenne trentenaire. Donc Météo France appelle ça une normale. Et pourquoi cette moyenne trentenaire? C'est pour éviter les variations interannuelles qui sont extrêmement importantes. Donc ça nous permet de lisser ces variations interannuelles. Et du coup, on parle de projection climatique donc avec 30 ans minimum de données. Donc voilà, c'est une précision que je voulais faire pour éviter de se faire polluer un petit peu avec ces variations interannuelles qui sont toujours assez importantes. Donc pour dresser un petit peu la carte de la région centre du climat, on peut regarder le premier paramètre qui est l'évolution des températures. On a par exemple pour prendre l'indicateur de n'importe quelle station en région centre, une augmentation donc depuis 1959 de plus 0,3 degrés tous les 10 ans. Donc ça, c'est la courbe de tendance qui est statistiquement significative, bien entendu. Donc on est à voilà plus 0,3 degrés tous les 10 ans, de 1959 jusqu'à 2018. Ça, c'est pour la température. Donc, augmentation tendancielle des températures. Ensuite, on peut regarder au niveau des précipitations. Depuis 60 ans, qu'est-ce qui s'est passé en région centre? Et là, pour le coup, c'est complètement différent, puisque là, on voit une forte hétérogénéité au niveau français, avec au sud de la France, une tendance à la baisse du cumul annuel des pluies, alors qu'au nord de la France, on commence à voir une augmentation, mais faible, hein, du cumul annuel des pluies. Nous, en région centre, on n'observe pas du tout ce phénomène, c'est-à-dire que depuis 60 ans, concrètement, on a une stagnation du cumul annuel. Encore une fois, je parle en moyenne trentenaire, donc les variations interannuelles sont extrêmement importantes, mais depuis 60 ans, la moyenne du cumul annuel, elle est par exemple de 700 mm, par exemple, en moyenne chez nous. N'a pas évolué depuis 60 ans. Donc on est sur une précipitation au cumul annuel constante. Il ne va pas être forcément le cas au niveau des précipitations saisonnières, bien entendu. Donc pour résumer un peu mes propos, augmentation des températures fortes depuis 60 ans, au niveau des précipitations, le cumul annuel reste constant. Voilà un petit peu pour dresser les premiers indicateurs climatiques.
Vous parliez aussi, donc, alors j'ai parcouru rapidement cet état des lieux, hein, qui est quand même un dossier important, qui fait plus de 160 pages. Vous avez aussi un indicateur qui est intéressant, je trouve, qui concerne le nombre de jours estivaux et le nombre de jours de gel, qui vont avoir un impact direct, hein, sur la production agricole. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Tout à fait. Alors, par exemple, le nombre de jours de gel, on peut commencer par celui-ci. Si on prend par exemple à Orléans, dans le passé, ce que j'appelle dans le passé, c'était en 1990, mais toujours pareil, hein, en moyenne trentenaire, on était à 30 jours de gel par an à Orléans. Si on regarde les projections et puis l'évolution dans Oracle, on a une nette diminution de de ces jours de gel, qui seraient, alors selon les projections, divisés par deux, mais on comprend un petit peu la tendance, un réchauffement donc qui se traduit par un radoucissement de l'hiver. Donc pour nous concrètement, agriculteurs, ça veut dire évolution des dates de semis de plus en plus tôt pour des cultures qui craignent le froid, mais on pense aussi à d'autres conséquences, hein, les maraîchers qui vont pouvoir semer plus tôt leur culture, et éventuellement des cultures biomasse qui vont peut-être bénéficier plus du réchauffement climatique à la sortie de l'hiver, dans ces dates mars, avril, mai, donc avec des rendements éventuellement supérieurs, puisque on a un réchauffement de plus en plus tôt, donc plus de photosynthèse potentiellement à ces dates-là, donc éventuellement plus de biomasse à ces dates-là. Contrairement à l'été, vous comprenez bien, puisque en juillet et août, les températures augmentent très très fortement, avec une pluie qui diminue, donc des rendements en baisse à l'été, contrairement au début du printemps.
Et en même temps, on peut commencer les semis, ou en tout cas l'état de la végétation commence plus tôt, et en même temps on a moins de jours de gel. Pour autant, on peut quand même avoir on va dire des accidents qui continuent à pouvoir arriver jusqu'en avril-mai, ce qui peut avoir des conséquences aussi sur la production.
C'est vrai que je vous parlais du nombre de jours de gel annuel qui diminue en moyenne. Alors, toujours ne jamais oublier la variation interannuelle, hein. Mais sur cette fameuse date de dernière gelée, il est vrai qu'on n'a rien détecté depuis 60 ans. Ce qui fait que c'est quand même une histoire de probabilité, quoi. On a un nombre de jours de gel en moins, mais cette fameuse dernière date de jour de gel, pour les viticulteurs, elle est primordiale, hein, puisque un gel au stade d'ébourrement de la vigne fait qu'il n'y aura plus de raisins le jour de la vendange. Cette date-là évolue pas franchement de façon très 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 distincte. Donc on est sur un risque de gel sur des cultures très très fragiles comme la vigne, qui évoluerait fortement, qui va avancer, mais pas si vite que ça, quoi.
On peut aussi éventuellement parler, alors dans le rapport j'ai vu qu'il y avait aussi plusieurs fois où vous évoquez un durcissement des conditions hydriques au printemps et en été. Comment ça se voit ça? Comment vous l'avez estimé? Comment vous l'avez défini?
Voilà, alors nous on reste assez théorique dans le rapport. On a fait quelque chose de très très basique. Le déficit hydrique, il s'évalue en fonction des précipitations qui tombent et de l'évaporation. Donc l'évaporation, dans le langage agricole, on appelle ça ETP, qui signifie évapotranspiration potentielle. Mais grosso modo, pour simplifier, c'est l'eau qui monte, c'est-à-dire l'eau qui s'évapore des plantes et des sols. Ça, forcément, ce paramètre-là, il est fonction fortement de la température. On a vu que les températures augmentaient et allaient augmenter, donc ce paramètre ETP augmente. Et donc, du coup, le déficit hydrique, c'est simplement la soustraction des pluies moins l'ETP, l'évaporation. Et en creusant cet indicateur, on peut voir certaines périodes de l'année qui vont avoir forcément des déficits hydriques de plus importants. Et on le voit sur l'indicateur, ce déficit hydrique augmente fortement en été, d'où forcément cette histoire d'accès à l'eau pour l'irrigation qui va se tendre dans le futur à ces périodes estivales. Au printemps, c'est moins marqué, dans le sens où la pluie nous dit qu'elle est toujours là au printemps, donc déficit hydrique quand même moins marqué par rapport à la période estivale qui là pour le coup va être fortement pénalisante pour les cultures qui demandent de l'irrigation l'été.
D'accord. Bon, je pense qu'on commence un petit peu à voir l'état des lieux, un état des lieux assez général. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter les conséquences directes que peuvent avoir cette modification du climat pour l'agriculture et les productions agricoles. Vous avez parlé de rendement céréalier tout à l'heure, on peut peut-être commencer par ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau des productions de céréales, donc que ce soit le blé, le maïs ou autre d'ailleurs?
Tout à fait. Alors, vous m'aviez posé aussi une question sur les nombres de jours très chauds. Alors, les nombres de jours très chauds, les agriculteurs, ils appellent ça les nombres de jours échaudants. Ce sont les jours qui vont avoir des températures supérieures à 25 degrés dans la journée, les températures maximales. Alors, échaudant, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le blé va échauder. Concrètement, un blé à cette période de l'année qui reçoit une température journalière à plus de 25 degrés, et c'était le cas ces derniers jours, le blé va échauder, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il va chauffer, alors qu'en ce moment, on est en pleine phase de remplissage du grain. Le blé, avec ses coups de chaud, va plus remplir ses grains, et du coup, vous avez un rendement qui est fortement pénalisé. À tel point que Arvalis, l'Institut du Végétal, a estimé que ces augmentations de stress thermique et hydrique étaient la cause principale de la stagnation du rendement du blé en région centre, mais en France également. Alors pour ceux qui n'ont pas conscience de ça, imaginez bien que le rendement en blé, avant les années 2000, augmentait de 1 quintal par hectare et par an. Or, depuis les années 2000, on a une courbe plate, une stagnation du rendement du blé. Eh bien, Arvalis nous dit que cette stagnation du rendement du blé est principalement due à ces fameuses augmentations de jours très chauds, on le voit ces derniers jours, eh bien, comme j'expliquais, qui pénalisent fortement le rendement en mettant des coups de chaud à ces périodes-là et qui font que le blé remplit plus ses grains et du coup à la moisson vous avez un rendement qui est fortement pénalisé.
Et est-ce qu'on sait à partir de quand cet échaudement peut provoquer éventuellement un effet inverse? Là, on a une stagnation parce qu'on voit qu'il y a une augmentation de la température. À un moment donné, la température va continuer à augmenter. Est-ce que à terme, ça peut pas provoquer même une baisse du rendement?
En fait, s'il y a stagnation du rendement, il faut s'imaginer que l'amélioration variétale n'a pas, n'a, ne s'est pas arrêtée depuis les années 2000, hein. On va dire qu'il n'y a pas non plus qu'un seul paramètre dans cette histoire de diminution de rendement, hein. Je pourrais situer les modifications d'assolement depuis les années 2000, la qualité de l'air éventuellement, on parle d'ozone. Les changements de pratique avec la fertilisation, bref, il y a quand même plus de facteurs, mais on a toujours l'amélioration variétale qui est là, qui fait toujours augmenter ces fameux quintaux, mais qui est complètement compensée par ces réchauffements, ce réchauffement climatique. Donc, on compte sur l'amélioration variétale pour tenter de contrer ces réchauffements climatiques. On a aussi des adaptations possibles des agriculteurs et ils ont déjà commencé. Par exemple, pour avancer les dates de semis du blé, etc., etc., pour tenter de, on appelle ça esquiver les jours chauds à l'avenir, pour tenter en fait de faire en sorte que le blé commence de plus en plus tôt sa phase de remplissage du grain, on va dire fin mai, début juin, pour éviter les coups de chaud qui arrivent souvent au cours du mois de juin. Donc c'est ce qu'on appelle l'esquive, en essayant de faire en sorte que le cycle végétatif de la culture se fasse avant les jours très chauds de juin, en fait.
D'accord. On peut parler aussi du maïs, qui est une culture qu'on trouve quand même pas mal dans notre région et qui sert beaucoup à l'alimentation des animaux. Qu'est-ce qui se passe avec le maïs, qui est une plante tropicale à l'origine, donc qui a besoin quand même d'une certaine quantité d'eau pour pouvoir pousser correctement?
Tout à fait. Donc tout à l'heure, je parlais du blé, où on a vraiment une démonstration scientifique de la part d'Arvalis qui a démontré qu'il y avait un lien fort entre stagnation du rendement du blé et augmentation des stress thermiques et hydriques. C'est moins le cas sur le maïs. D'ailleurs, on le voit dans la courbe régionale. Le maïs s'est pris ces dernières années des accidents, mais la courbe de tendance de stagnation du rendement n'est pas encore très nette. Il faut attendre encore une dizaine d'années pour voir si cette tendance est marquée ou pas. vous l'avez dit, c'est une culture tropicale, donc qui est vouée à peut-être supporter plus ces fortes températures. N'empêche que il faut pas oublier que, contrairement au blé, le maïs en région centre est irrigué à 60%, ce qui fait que le blé peut connaître des stress hydriques. Donc, stress hydrique, c'est le manque d'eau au moment où il en a besoin. Le maïs, il connaît pas ça, puisqu'il est irrigué à 60% en région centre. Donc, cette courbe de rendement du maïs, bon, étant donné qu'elle ne connaît pas le stress hydrique, forcément, elle est moins pénalisée par le rendement. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Encore un petit peu d'incertitude sur le maïs, mais il y a quand même des petites alertes qui sont arrivées ces dernières années avec des catastrophes de rendement qui sont arrivées ces dernières années sur le maïs, bah, notamment liées avec cette irrigation, puisqu'on le disait au début, cela fait partie des cultures qui demandent à être irriguées au moment de l'été et qui vont être de plus en plus incompatibles dues aux évolutions du déficit hydrique estival dont on parlait tout à l'heure.
Et donc peut-être une des potentialités d'adaptation du milieu agricole, ça serait de faire moins de maïs.
Éventuellement, c'est sûr, mais étant donné que le maïs en silage, actuellement, il sert majoritairement à l'alimentation animale, il faut que les éleveurs, forcément, trouvent une parade à ces baisses de rendement maïs. Donc, je vous parlais tout à l'heure de biomasse éventuellement plus importante au début du printemps. Ce serait éventuellement une piste d'adaptation, on y travaille actuellement, hein, de transformer ce maïs sous la forme de métaille. Alors, les métailles, ça peut s'appeler des cultures intermédiaires d'hiver, qui vont éventuellement remplacer le maïs à terme, mais avec quand même pas mal d'inconnus. Mais on pourrait éventuellement transférer une part de ce maïs au printemps pour ensiler des métailles au mois d'avril, au mois de mai, pour tenter de se sécuriser au niveau de son stock fourrager. C'est une des pistes d'adaptation qui est creusée actuellement auprès des éleveurs.
Alors, je fais un petit aparté par rapport à la conduite de l'émission, mais pour aller un peu plus loin dans cette question, parce que je trouve intéressant, personnellement, moi, la question du maïs m'interroge toujours, hein, qu'on ait besoin d'une plante tropicale qu'on irrigue l'été, ça m'interroge toujours. Dans le rapport, j'ai vu que vous aviez parlé aussi des légumineuses, que ce soit les féveroles, les pois, qui en plus ont une capacité de stockage de l'azote dans le sol, donc qui peuvent être éventuellement intéressantes. Dans quelle mesure les légumineuses, elles pourraient elles aussi venir en complément ou en remplacement du maïs?
Alors, forcément, la légumineuse fait partie de la culture, on va dire, climato-compatible. Pourquoi? Parce que elle a la capacité, on en reparlera tout à l'heure, de fabriquer son propre azote, donc d'économiser des intrants azotés qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Elle participe au stockage du carbone et elle participe à l'autonomie protéique des élevages en France. Mais là, on est sur une question, on va dire, qui dépasse le département ou la région centre, puisque là, on est sur, on va dire, de l'économie mondiale. Le soja américain arrive en France moins cher qu'une culture de légumineuses cultivée par un éleveur français. Donc on a des distorsions un petit peu qui fait que on n'a pas d'intérêt économique à faire de la légumineuse en France. Je peux prendre ici l'exemple de la lentille canadienne, donc légumineuse alimentation humaine, qui arrive en France à des prix défiant toute concurrence. Donc là, on est sur des enfin, c'est pas la seule explication, bien entendu, hein, mais on est sur des paramètres internationaux qui nous dépassent un peu. Mais il est certain que ça fait partie de la solution et que demain, plus les cultures de légumineuses seront réinsérées dans les assolements. C'était le cas, hein, vous pourrez le voir dans la courbe, dans Oracle. Que la culture de légumineuses était beaucoup plus présente avant. Mais c'est uniquement une raison économique, plutôt que. Mais les agriculteurs ont bien conscience que c'est une solution agronomique. C'est juste une question économique dans le choix de. Enfin, le non-choix de cette culture.
D'accord. On ferme la parenthèse qui est somme toute intéressante. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter puisque après, en fin d'émission, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu des capacités d'adaptation du monde agricole. Là, on a commencé un petit peu à aborder rapidement la question. Mais avant, je voulais qu'on finisse quand même les impacts sur l'agriculture. On a abordé la question de la vigne tout à l'heure avec l'augmentation notamment l'augmentation du, enfin la diminution pardon, du nombre de jours de gel. Mais le changement climatique a aussi un autre impact pour la vigne et plus généralement même pour l'arboriculture. Puisque on a une avancée des différents stades de développement des végétaux et on a aussi une augmentation des chaleurs au moment des récoltes et des vendanges. Et ça a un impact selon vous.
Tout à fait. Je reviens sur le débourrement de la vigne. Donc, débourrement de la vigne, ça veut dire le moment où la vigne fait son bourgeon. Tout à l'heure, en introduction, je vous disais qu'il y aura de moins en moins de jours de gel. Et donc, du coup, on voit dans nos paysages, surtout au sud de la Loire, des tours anti-gel qui sont venus se fleurir dans les vignes. Donc là, vous comprenez que ce sont les viticulteurs qui veulent lutter contre le gel au stade de débourrement. Alors que j'ai dit que le nombre de jours de gel diminuait. Mais ne jamais oublier que malgré cette diminution du nombre de jours de gel, la vigne, elle cale son cycle végétatif en fonction des sommes de température qu'on appelle. Mais pour faire simple, le stade de débourrement de la vigne a déjà avancé dans le temps. Ce qui fait que on passe de un débourrement de avril et dans le futur il passera à mars. Ce qui fait que le nombre de jours de gel a beau diminuer, étant donné que le stade de débourrement arrive de plus en plus tôt, le risque de gel de la vigne au débourrement est le même en fait à cause de cette modification du cycle végétatif. D'où la chose un petit peu contre-intuitive et le fait de dire que le nombre de jours de gel a beau diminuer, le risque de gel au débourrement est le même. D'où cette prise en compte de ce paramètre auprès des viticulteurs et actuellement de lutter contre le gel parce que c'est fortement préjudiciable pour cette filière. Et pour venir sur la fin du cycle végétatif de la vigne, à savoir les vendanges, alors ça, vous comprenez bien que, étant donné que le cycle végétatif est fortement calé avec des sommes de température, on était sur fin septembre, il y a 50 ans, en date de vendange, on est début septembre, on annonce des records d'avancée de vendange cette année. Voilà, c'est tout à fait lié à cela, la forte dépendance des sommes de température du cycle végétatif, donc une avancée des dates de vendange. Donc là, le viticulteur, forcément, il prend en compte cette donnée. Le viticulteur, à l'avenir, il aura plus trop de vacances, on va dire, au mois d'août, hein, puisqu'il faudra vraiment qu'il anticipe sa vendange dès le milieu du mois d'août, si ce n'est pas avant.
D'accord. Très bien. Au niveau des productions arboricoles, hein, et notamment au niveau des fruits, on a une région productrice de pommes, hein, que ce soit dans le Cher ou dans l'Indre-et-Loire. Hein. Quelles conséquences pour ces productions-là à le réchauffement climatique?
Alors, sur l'arboriculture, on est un petit peu moins armé, dans le sens où on a moins d'historique dans les données. J'ai l'impression que l'avancée de la floraison a déjà été observée, mais il est vrai que depuis une dix, quinzaine d'années, on a vraiment une date de floraison qui n'évolue plus. On suggère, parce que c'est des suppositions, que on va dire l'arboriculture est liée fortement à la vernalisation. Concrètement, ça veut dire que l'arbre a besoin d'un nombre de jours de froid pour exprimer son plein potentiel de rendement et sa pleine floraison. Et on suggère que l'arbre, il a beau y avoir de plus en plus de sommes de température de jours chauds, il a quand même besoin d'un nombre de jours froids, qui fait que ça, il s'autorégule. Et sa date de floraison est maintenant stable. Ça pourrait être inquiétant, par exemple, sur des arbres qui ont besoin toujours de ce nombre de jours froids pour exprimer son plein potentiel de rendement. Il y a des inquiétudes, mais sans savoir trop où on va, si demain il n'a plus son quota de jours froids, on pourrait imaginer une baisse de rendement parce qu'il n'aura jamais atteint son stade de vernalisation qu'on appelle. Donc, son nombre de jours froids ne sera pas rempli. C'est une interrogation. Pour l'instant, on n'observe pas grand-chose.
Oui, on comprend bien que ce phénomène-là de réchauffement climatique, on est en plein dedans et qu'il y a un certain nombre de choses qui vont s'exprimer dans les années à venir aussi et qu'on sera amené éventuellement à réviser un certain nombre de jugements ou en tout cas d'observations qu'on a pu faire déjà jusqu'à présent.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Et on voit bien que certaines filières comme le blé qui ont des impacts économiques importants, on a d'importantes bibliographies dessus, mais sur des micro-filières, en tout cas pour notre région, voilà, on a quand même moins de biblio, donc on est un petit peu plus mal à l'aise pour interpréter les chiffres et suivre, puisque forcément la recherche et développement dans des micro-filières est moins active sur l'amélioration variétale que des filières à fort potentiel. Donc, il y a quand même plus d'inconnus sur des filières qu'ont moins mis d'argent dans l'évolution de la génétique de ces filières.
La première partie de notre émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouveau numéro de La Chose Commune consacré au changement climatique et à l'agriculture, où on parlera plus profondément des obligations d'adaptation du milieu agricole face au changement climatique et aux moyens d'atténuer ce phénomène. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que tous les numéros de La Chose Commune en podcast sur le site de la radio studiozef.fr. Dans l'article de cette semaine, je vous propose d'aller voir. Je vous ai mis en ligne l'étude complète qui est parue en mars 2020, éditée par Oracle, et qui reprend plus profondément, plus précisément, tous les éléments qu'on a cités dans cette émission. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, on continue d'agir pour la chose commune.